Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Oui, donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous encore sur la notion de héros. Je peux faire un petit résumé de certaines choses que nous avons déjà posé des questions. Où sont les héros aujourd'hui, d'aujourd'hui? Pourquoi s'intéresser à la notion de héros aujourd'hui? On avait vu cette phrase, le besoin d'inspiration, le besoin d'aller au-delà de soi-même, il reste intact. Bien que hors de la fiction, personne n'y croit plus et que dans la vie de tous les jours, c'est plutôt la méfiance qui prédomine. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de se laisser vraiment interpeller individuellement que ça existe des héros. Des fois, on en parle dans les faits divers, quelqu'un qui a sauvé la vie de quelqu'un, etc. Mais donc, soyez bien sûr que vous pouvez prendre une position de héros. Il ne s'agit pas de dire « je suis quelqu'un de formidable », il s'agit juste de réaliser que je peux aller au-delà de ce que la vie veut des fois nous imposer. Et quand je dis « la vie », c'est pris d'une façon générale, parce que quand je réfléchissais à ce sujet, j'ai vu des signes, et justement, on disait tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des fois on voit. Il y avait une publicité pour une conférence chrétienne, et le titre c'était en anglais justement « Bring out the hero ». Donc c'était justement pour stimuler les gens. Il y avait aussi à un moment, il y a quelques semaines de ça, on avait vu une série américaine, où il y a le docteur Rodney McKay qui était transformé par une machine et donc qui a agi sur son ADN et tout à coup il a eu des super pouvoirs de force et d'intelligence. Alors on parlait de la fiction, ben justement c'est souvent le rêve des écoliers, des étudiants d'avoir tout à coup des super pouvoirs de mémorisation et de connaissances, etc. Et je me suis dit, oui, pourquoi Dieu a rendu les choses complexes pour nous? Je dis pas compliquées, mais complexes. Hein. Si vous voulez, quand le petit poulain, il naît, quelques minutes après sa naissance, il est sur ses jambes, il marche, mais il va faire à peu près, dans les prochaines heures, ce qu'il fera le reste de sa vie. Hein. Ni plus, ni moins. Donc, nous ne sommes pas juste un animal évolué, mais on est bien plus que ça. C'est pour ça que ça prend longtemps, la formation, la croissance, la maturité. C'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais il y a aussi quelque chose à développer pour qu'on atteigne ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas juste comme ça, effectivement, on met un logiciel dans un ordinateur et puis voilà, ça fonctionne. C'est autre chose, on n'est pas une machine. Alors, un héros en puissance habite en chacun de nous. Il faut qu'on en soit convaincu. C'est pas une question de se vanter, de penser que voilà, je suis meilleur que les autres, c'est pas ça. C'est simplement de ne pas vivre en dessous de ce que Dieu a prévu. Alors, je rappelle encore une fois ce que nous avions partagé. Un héros, c'est avant tout quelqu'un, homme, femme ou enfant, qui est devenu conscient qu'en tant qu'individu, il a un destin. Que la vie ne se limite pas à manger, dormir, se faire plaisir ou faire plaisir, mais qu'il y a un rôle à jouer. Donc, Dieu nous invite à participer à un jeu de rôle où notre perso, c'est un héros. Et donc, il y a aussi une pub qui veut faire vanter le fait de faire des paris en ligne, etc. Et j'ai horreur de cette pub parce que chaque fois, ils disent « la vie est un jeu ». La vie, non, la vie, c'est pas un jeu. Et j'ai horreur de cette pub. Et beaucoup de gens se laissent prendre à parier, perdre leur argent bêtement. Et donc, nous voulons aller plus loin dans cette question aujourd'hui. Et on peut se poser la question « es-tu un héros extraordinaire ?» Extraordinaire, pourquoi ? On peut se dire, ce serait déjà bien d'être un héros tout court. Mais comme je le disais, dans la vie autour de nous, il y a des fois des gens qui font des actes merveilleux et on dit, voilà, c'est un héros. Mais pour nous, il y a quelque chose de plus, un défi qui nous est lancé pour être un héros extraordinaire. Il faut qu'on apprenne, mon premier point, c'est puiser dans le surnaturel. Ne vivez pas au rabais. Nous pouvons être limités, justement, comme le monde voit les choses. L'être humain est un animal un peu plus évolué que les autres. Ben là, vous êtes dans une dimension, juste deux dimensions. corps et âme, c'est-à-dire les émotions, plus ou moins d'intellect, etc. Mais nous, nous croyons, et selon la Bible, on dit que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et à cause de cette déclaration, à cause de cette foi que nous avons une connexion avec le surnaturel. On sait que par le péché, cette connexion était coupée, mais maintenant, par Jésus, on a été réconcilié avec Dieu. On a chanté tout à l'heure, maintenant il y a un chemin ouvert, le ciel nous est ouvert, pour qu'il y ait une communication, donc nous pouvons puiser dans le surnaturel. Alors ne vis pas ta vie au rabais. La modernité, le matérialisme dans lequel vivent la plupart des gens veulent détruire la notion de destinée. Et tout ce qui est spirituel, supérieur ou éternel. Il y a juste quelques illuminés qui s'intéressent à ces choses, qui la plupart du temps basculent dans l'occultisme, le spiritisme et tout ça. Eh bien, nous sommes là pour dire non, il y a une autre voie. Une voie qui a été voulue par Dieu, notre Créateur, et qui est la voie pour chaque être humain. C'est de pouvoir vivre dans des choses spirituelles, supérieures et éternelles. Et que c'est pas une espèce de folie mystique qui nous saisit, mais que c'est simplement de reprendre notre place dans la création. C'est ainsi qu'à l'exaltation du moment succèdent des moments de forte dépression. Parce qu'on se rend compte que les repères de la mode du moment sont creux, n'apportent pas une profondeur suffisante pour conférer une consistance devant les événements. Donc, des mots un petit peu compliqués, des phrases, mais c'est parce que c'est très dense et très riche. On aurait pu dire, ben, les gens recherchent une voie rapide pour se sentir bien, la drogue, ou je prends des shoots et des trucs comme ça. Donc, hop, j'ai tout en haut et après, de nouveau, le grand creux. Mais nous, nous disons, non, il y a une autre voie. Il y a quelque chose d'autre à faire. Mais quand on pense que nos périples, notre cheminement ou ce que vous faites dans la vie, c'est pas important, alors il y a des situations où des gens, ils font pas face à leurs dragons, ils cherchent pas des trésors et des choses comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun d'entre nous, on imagine justement toutes ces histoires où il y avait des quêtes, des héros. Eh bien, dans la réalité, c'est la même chose. On peut soit poursuivre des buts, affronter des situations, rechercher des choses de valeur, ou dire non, la vie c'est juste profiter, manger, boire, s'amuser. Et donc, si on ne fait pas ça, si on ne croit pas ça, que ces chemins sont importants, alors on est vide à l'intérieur. Et on laisse ce vide qui nous affecte tous. Parce que si par exemple, je suis déprimé, ça a un effet sur mon entourage aussi. Ça affecte, toute situation affecte votre environnement. Et c'est d'ailleurs ce mécanisme de dire non, il n'y a rien, qui suscite chez les jeunes ou les moins jeunes une espèce d'indifférence, responsable aussi de l'esprit de dérision. Si vous avez vu que si dans les forums ou les échanges ou les commentaires sur Internet, etc., si quelqu'un essaie de lancer une idée des fois, vous avez toujours des gens pour casser la réflexion. Pour rentrer dans la dérision, dans la critique, si c'est pas l'insulte, c'est très fréquent de voir que vous avez du mal à lancer une espèce de débat, puisque vous allez toujours voir qu'il y a des gens qui vont interférer d'une façon très négative. Esprit de dérision, qui est manifeste en des fois des bandes dessinées, programmes télé, etc., et qui envahit le monde actuel. Rabaisser est devenu un réflexe. Une seconde nature. D'ailleurs, l'idée que tout est mortel, donc voilà, ça dure pour un temps puis c'est terminé, alors on le relativise au point de se convaincre que tout se vaut, rien n'a d'importance, rien n'est à prendre au sérieux, rien ne vaut la peine. Et plus on s'ancre dans cette dérision, plus ces sociétés deviennent amorphes et moins les individus sont motivés et capables de se prendre en main. Vous le voyez que c'est une description de ce qui est en train de se passer. Et c'est pas seulement pour dire, oh le monde, regardez comme ils sont tous mauvais. C'est parce que j'ai dit, ça nous affecte tous. Si on n'y prend pas garde, on tombe aussi dans l'engrenage de la dérision, de la critique, de choses négatives, de tirer vers le bas. Et même des psychologues, par exemple, dans le monde moderne, uniformes, ils ont une définition pour le cas rare de celui qui est atteint du délire de grandeur. D'accord ? Entre parenthèses, la folie des grandeurs, si ça rappelle quelque chose. Hein. Donc, il y a des gens qui ont le délire de grandeur, et on les montre du doigt. Regardez, ils ont le délire de grandeur. Mais ils n'ont pas de classification, ces psychologues, pour la maladie la plus répandue. C'est le délire qui veut que nous ne servions à rien. C'est plus répandu et c'est plus grave d'entretenir cette idée, on ne sert à rien, on ne fait rien, etc. Donc il faut qu'on soit bien au clair de ce qui est en train de se passer. Donc bien qu'il soit vrai qu'aucun d'entre nous ait plus d'importance qu'un autre, on dit on est tous pareils, spécialement dans l'Église, on insiste sur le fait qu'on est frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui domine sur les autres, c'est pas la volonté de Dieu, tout ça. Mais nous avons tous une contribution précieuse à apporter. Souvent on a insisté sur ça, ce qui permet aussi qu'un couple marche bien. C'est pas que l'un domine sur l'autre, c'est qu'on a des fonctions différentes et puis voilà, on le respecte. Et donc vouloir une espèce d'uniformité et d'égalité à tout prix, ça ne mène à rien. On est tous différents, donc chacun apporte sa contribution. Une qualité, un bien que nous sommes dans l'incapacité de donner si on ne commence pas notre traversée, périple, etc. Parce qu'on enfouit des choses en nous. On avait vu aussi un petit peu la semaine dernière, est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous avez envie d'exprimer ? On ne peut pas vivre de grande vie si nous sommes disposés, si nous sommes disposés à nous faire grands. Ce faisant, on abandonne l'illusion d'impuissance. L'illusion d'impuissance, j'ai lu ça quelque part. En fait, le diable veut toujours nous faire croire que non, tu peux rien faire, hein, tu peux rien changer, t'es pas meilleur que les autres, pour qui te prends-tu, etc. Toujours ces côtés rabaissés, il n'y a rien à faire, abandonne, ne résiste pas, laisse-toi tenter, et tout. C'est un commun matraquage. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse réaliser qu'il y a des raisons qui sont à l'origine de ce délire. J'ai repéré quelques écrits là, par-ci, par-là, et donc quelque part il disait que c'était un délire d'inutilité. On dit, oh regardez, lui là, la folie des grandeurs qu'il a, il se prend pour je sais pas quoi, et en réalité c'est pour rabaisser la plupart d'entre nous, pour mieux les contrôler, les manipuler. C'est encore ça. Donc voilà, actuellement un des problèmes majeurs des sociétés développées, c'est la perte de confiance en soi des individus. Quel que soit leur âge et leur condition. Et donc, avec tout ce bilan que nous avons fait et tout ce que nous avons vu, peut-être mieux pris conscience dans quelle situation on est, on a maintenant une réponse biblique. Alors on va un peu plus aller dans des textes de la parole de Dieu. Mon numéro 2, c'est « Va avec la force que tu as, vaillant héros ». Et donc ça se trouve dans Juges, au chapitre 6. Ça c'est, vous voyez, Dieu n'attend pas qu'il y ait un problème pour trouver une solution. Mais quand il y a un problème, vous pouvez être sûr que dans la parole de Dieu, vous allez déjà trouver quelque chose qu'il avait préparé de toute éternité pour nous aider à nous en sortir. Et bien dans tout ce négativisme, dans toutes ces choses où il n'y a pas de destinée, pas de destin, pas de vie intéressante, la réponse de Dieu, elle vient dans des situations difficiles. Dans le contexte, qu'est-ce qui s'était passé? C'était un moment difficile pour Israël. Il y avait leurs ennemis qui leur prenaient tout ce qu'ils avaient. Ils les laissaient faire tout le travail des champs. Et quand le moment de la récolte venait, il nous a dit qu'ils venaient comme une nuée de sauterelles. Et ils s'emparaient de tout ce qu'ils pouvaient. Donc voilà ce qui se passe. Et donc Gédéon, il faisait acte de résistance. Il était en train de battre du blé. Alors on va lire ça. Juges 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. C'est intéressant des fois des petits détails de la Bible comme ça. L'ange vient, et il s'assoit. S'asseoir, ça veut dire on prend son temps. On s'assoit pour observer. On n'est pas ici dans la hâte et la précipitation. Donc ce térébinthe qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer, son fils Gédéon battait de l'air au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi on bat du blé dans un pressoir. Peut-être vous aviez pas fait bien attention, mais le pressoir ça sert normalement pour le raisin, pour faire du vin. Et le pressoir, c'est une citerne, c'est un endroit qui était creux. Là, il bat du blé, et quand la balle du blé s'envole pour qu'on récupère le grain, ces petits nuages faisaient que c'était comme un signal au loin. Alors les Madianites regardaient, ah, un petit nuage, il y a quelqu'un qui est en train de battre du blé, et il venait se précipiter pour tout rafler. Donc lui, il était ingénieux, il s'est mis dans le pressoir, comme ça quand le petit nuage montait, ça se voyait pas de loin, Et ça n'a l'air de rien du tout, mais pour nous c'est important, ça montre que c'est quelqu'un qui fait un acte de résistance et qu'il est ingénieux et qu'il n'est pas prêt de laisser l'ennemi tout lui prendre ce qu'il a. Et donc, voilà, il bat du blé pour le mettre à l'abri des Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors c'est peut-être pas, quand je disais « tu es un héros extraordinaire », c'était peut-être pas votre idée du héros, mais Dieu voit cela comme un acte héroïque. C'est quelque chose qui est remarquable, non seulement ça, mais parce que quand Dieu dit quelque chose sur notre vie, il ne dit pas seulement l'état dans lequel on est, mais il dit déjà des choses qu'il voit dans le futur, et qui pour lui sont déjà une réalité. Parce que lui, il n'est pas concerné par le temps comme nous. Il y a un temps linéaire, où il y a avant, pendant, après, ou plus tard. Il voit déjà Gédéon avec tout son potentiel, toute sa capacité, et ce qu'il va devenir après un libérateur en Israël. Mais sur le moment, Gédéon, il est peut-être comme nous. Des fois, on se voit comme ça. Dieu dit quelque chose, et nous, on n'a pas l'impression que c'est la réalité. Et Gédéon, il réplique, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Là aussi, on a une réponse simpliste des fois aux choses de la vie. Si tu es bien sage, et tu obéis à Dieu, etc., tout va bien se passer. Et dès qu'il arrive quelque chose de travers, on se dit, « Alors ça veut dire que Dieu n'était pas avec moi ?» Ou on peut être dans toutes sortes d'une tempête de pensées et de réflexions. Mais là, il nous est dit que... Dieu est avec lui et pourtant il est dans une situation difficile. Mais c'est parce qu'il y a un ennemi. Donc où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Donc il y a le passé où Dieu a fait de grandes choses. Il y a le présent dans lequel il est, et il y a son diagnostic à lui. Gédéon est en train de dire, voilà, rien ne se passe, on est livré entre les mains de Madian, qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais Dieu n'abandonne pas facilement avec nous, même si nous ne sommes pas toujours au sommet de notre foi. Il nous soutient. L'Éternel se tourne vers lui, il lui dit, « Va avec la force que tu as, et délivre Israël de l'oppression de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Et malgré les paroles de Dieu, les promesses et tous les encouragements, ben il nous arrive encore de douter, de vouloir encore plus et encore plus d'assurance que Dieu est bien avec nous, que je veux être absolument sûr. Donc il demande, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Parce que nous on voit pas toujours comment les choses vont être faites. Mais Dieu n'est pas limité. Alors il regarde les choses naturelles. Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit de la famille de mon père. Toutes des choses qui ne correspondent pas à son idée d'un vaillant héros. Mais Dieu dit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Alors ça c'est intéressant aussi, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Si vous avez un homme en face de vous, vous dites, bon c'est possible, je peux le vaincre. Mais de mémoire, il me semble qu'il y avait à peu près 125 000 Madianites. Et à côté de ça, le petit troupeau d'Israël représentait peu de choses. Et vous savez, bon, on va pas détailler Gédéon aujourd'hui, mais il avait quand même réussi à un moment donné à rassembler une armée de 32 000 hommes, ce qui n'est pas mal. Mais contre 125 000, au niveau mathématique, là, c'est encore un peu juste. Et que finalement, Dieu a donné la victoire avec 300 combattants. Qui n'ont pas vraiment combattu en fait, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais simplement Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Donc toutes ces réponses à apporter pour que nous rentrions dans notre dimension de héros, c'est premièrement, va avec la force que tu as. Deuxièmement, comment te vois-tu ? Dans Nombre 13, 31, les espions qui étaient allés dans le pays d'Israël, ils avaient chacun donné un rapport, on dit « voilà ». Le pays est comme ci, comme ça. Est-ce qu'on pourra le prendre ou non ? Est-ce qu'on pourra gagner ? Alors, voilà les réponses de quelques personnes. Les hommes qui avaient accompagné, donc à l'époque, il s'agissait de Josué et de Caleb, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Vous voyez, dénigrer, encore cette notion de rabaisser. Voilà. Rabaisser, non seulement rabaisser les autres ou les situations, mais encore les cadeaux de Dieu. Oh, c'est pas grand chose, c'est ce que Dieu nous offre, c'est la bénédiction. Alors qu'ils disaient, c'est un pays magnifique. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alors, on ne retient qu'un aspect négatif. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Là encore une fois, comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle?
Non.
En tout cas, eux, ils se sont vus comme une sauterelle. Et en partie, ça a été la raison pour laquelle ces gens ne sont jamais rentrés dans les bénédictions de Dieu. Ils représentent le pays de l'abondance, Canaan. Parce qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Il y a des géants en face, nous on est des sauterelles, on ne peut rien faire. Gédéon disait, moi je suis petit, je suis faible, mais Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Troisième chose, des exploits extraordinaires. Nous avons une description des vaillants hommes de David. Alors là, pour des héros et des exploits, moi, j'aime bien lire ces passages. Dans 2 Samuel 23:8, on nous décrit quelques-uns des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et on dit leur nom. Alors il y en avait un qui s'appelait Josheb Bashebet. Il était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino. Et il fit 800 victimes en une seule fois. Donc c'est pas pour dire que c'est super la guerre et toutes ces batailles et tout. C'est simplement pour vous parler de l'exploit en tant que tel que ça représente qu'un homme seul puisse être vainqueur de 800 hommes en face. C'est absolument inimaginable. Après lui, il y avait Éléazar. Il était l'un des trois guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Imaginez le tableau. Vous aviez l'armée des Philistins en face, et tout le monde se cache et se met à l'abri dans les hauteurs. Il n'y a plus que David et trois hommes qui restent avec lui. Il se leva, frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. On a tous les détails techniques, mais c'est juste pour dire ces hommes étaient capables d'exploits guerriers impensables pour les choses naturelles. Parce que l'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Les autres, ils ont ramassé le butin, mais c'est Éléazar qui a fait le travail avec l'aide de Dieu. Et on prend encore un troisième exemple, au verset 11. Shama, fils d'Agé, les Philistins s'étaient rassemblés à un certain endroit. Il y avait une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple avait pris la fuite. Une fois de plus, voyez, la masse, elle s'enfuit, mais le héros, il reste. Et c'est la réalité partout. Il y a quelques individus qui osent relever le défi, qui osent faire quelque chose que les autres ne font pas. Et ça fait d'eux des héros. Il nous est dit, Shama se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Donc il y a toujours le il, ce que il a fait, mais aussi l'Éternel accomplit. Donc à travers de ces exploits guerriers, je voulais simplement vous démontrer que nous, on mène maintenant une guerre spirituelle où beaucoup baissent les bras, se laissent prendre et prendre au piège par l'ennemi. Et donc nous sommes ceux qui devons nous battre. Et il nous a dit, et chaque fois, c'est l'Éternel qui accomplit une délivrance. Donc, nous sommes donc dans cette deuxième partie où je relève un certain nombre de points. Toujours dans « Va avec la force que tu as », on a vu Gédéon le vaillant héros, comment on se voit soi-même, des exploits extraordinaires. Et numéro 4, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Dans 2 Corinthiens 12:9, ça nous montre une bataille de l'apôtre Paul. À un moment donné, il doit se battre contre quoi? Vous rappelez? Il nous a dit c'est un ange de Satan qui venait le souffleter, vieux terme, venait le frapper. Il venait le frapper de la façon suivante. Il lui donnait des coups d'opposition et de découragement. Quand Paul prêchait l'évangile quelque part, après il y avait des gens pour détruire son travail et donc ça le minait pas mal. Et donc il a prié Dieu d'être délivré de ça. Mais le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui ne voulait pas dire, contrairement à ce que certains interprètent des fois, on est faible, on est petit, etc., mais c'est normal, Dieu veut que ce soit comme ça. Non, il voulait dire qu'au travers de notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Donc quel est le point à focaliser? C'est pas notre faiblesse. C'est que la puissance de Dieu n'est pas limitée par notre personne. Mais au contraire, le fait que nous soyons faibles et dépendants de Dieu, c'est ça qui nous rend forts. Vous voyez, si vous pensez que vous êtes fort, vous dites « j'ai pas besoin de Dieu, je prie pas », etc. Vous débrouillez par vous-même et vous échouez. Si vous dites « je sais que sans Dieu je peux pas y arriver, j'ai besoin de son aide, de ses ressources, de sa force, de sa sagesse, etc. » Et à ce moment-là, la force de Dieu se manifeste. Alors Paul en conclut « alors si c'est comme ça, ben, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses ». Il avait toujours un style d'écriture un peu pour provoquer les lecteurs. Je suis fier de mes faiblesses, qui est complètement absurde dans le naturel. Quelqu'un vous dit ça, c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes. Mais Paul dit, parce que justement, quand je suis faible, alors la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire, je ne m'attends pas à y arriver par moi seul. C'est pourquoi, là encore son style, je me plais dans mes faiblesses. J'ai le côté un peu maso, hein. J'aime souffrir. Non, c'est pas ça qu'il dit. Les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses pour Christ, il les recherche pas, mais elles font partie de la vie de celui qui est disciple, d'une façon ou d'une autre. Mais il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris quelque chose. Et le cinquième et dernier point, c'est le infiniment plus. Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il peut faire par la puissance qui agit en nous. Déjà, il a fait énormément dans le naturel pour nous émerveiller par sa création. Tout à l'heure, Christine nous parlait de cet exemple des oiseaux du paradis. Et on voit des choses merveilleuses de la création. Le psaume 139 aussi, il disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est pas pour flatter notre ego, je suis quelqu'un de formidable. C'est dans le contexte, c'était parce que quand on voit la création du corps humain, nous sommes extrêmement complexes et extraordinairement bien fabriqués. D'ailleurs, régulièrement, on dit encore que maintenant, même avec des outils perfectionnés, on n'est pas encore arrivé à reproduire certaines choses que l'œil humain peut capter au niveau de la vision, des choses comme ça. Donc, c'est une réalité, mais maintenant, même la puissance qui agit en nous, il y a encore la puissance du Saint-Esprit qui peut faire encore infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, et c'est ma troisième partie pour partager, vivons dans le surnaturel. Vivons constamment connectés à Dieu. Pour ça, il nous faut cette façon de transcender, de passer du point de vue naturel dans le spirituel, dans le domaine de Dieu. Pour dépasser notre état, il faut qu'on se sente enraciné à la fois dans l'histoire et dans l'éternité. On a chacun notre propre histoire. Je sais qui je suis dans le naturel, je connais mes parents, je sais où j'ai grandi, etc. On connaît beaucoup de choses. On connaît des choses peut-être sur notre pays, sur notre origine. Mais en même temps, il faut qu'on sache qu'on n'est pas là juste pour ce petit morceau de vie sur Terre, mais on est rattaché à quelque chose qui est du domaine de l'éternité. Donc, c'est la quête du héros. Et j'espère que vous allez de plus en plus avoir envie de devenir un héros tous les jours. Seigneur, fais de moi un héros aujourd'hui, ou une héroïne. Donc c'est à la fois un enracinement dans des choses éternelles de l'existence, et on peut aussi pour ça voir tout ce qui a été entretenu dans les histoires humaines, au niveau des mythes, des contes. Même dans la Bible, il nous dit de certains, c'était les héros d'autrefois. Il y avait toutes sortes d'histoires dans l'Antiquité déjà, et donc il existe constamment des mythes, des contes, des légendes, sauf que nous savons que ça, en ce qui concerne la parole de Dieu, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mythes, mais ce sont des choses qui ont réellement existé. Mais en ce qui concerne ce que les gens peuvent voir autour de nous, nous avons parlé des fois de la fiction, de ce qu'on peut imaginer. Il y a dans l'histoire, par exemple, du Seigneur des Anneaux, l'auteur Tolkien, il a dit, il a voulu par cette histoire raconter comme une parabole des vérités éternelles mais sans dire constamment la Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que, mais donner un critère de référence pour que les gens puissent découvrir au travers de son histoire ce qui est héroïque, ce qui est du domaine du bon, ce qui est des bonnes choses dans le monde et ce qui ne vise qu'à détruire. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que même si on ne peut pas faire dans une histoire inventée comme ça, tout faire parfaitement coller à la Bible. On veut dire, ah oui, ça c'est ça, etc. Mais nous avons dans la Bible l'idée qu'il y a des gens qui sont des types de Christ. Par exemple, Moïse est un type de Christ. C'est le libérateur du peuple, celui qui le fait sortir d'Égypte et qui l'amène à être libre. Ça ne veut pas dire que la personne de Moïse reflète parfaitement Christ. C'est juste un type de Christ. Joseph est un type de Christ, trahi par ses frères, il a été vendu, etc., et devenu un libérateur aussi pour ses frères par la suite. Donc, nous avons des types de Christ tout au long de la Bible. Eh bien, nous, on doit aussi être des types de Christ. Parce qu'il nous a dit, les premiers chrétiens, on les a appelés chrétiens parce que c'était une façon d'abord de se moquer d'eux. « Oh, ils se peignent pour des petits Christs. » C'était un peu une façon ironique de dire « Pour qui se prennent-ils ? Croient-ils être des petits Christs ?» Mais en réalité, c'est un peu ce qu'on devrait refléter. Donc, par exemple, dans cette histoire, nous avons aussi Gandalf qui est une image comme un prophète, comme Moïse qui conduit le peuple. C'est l'image d'un guerrier pacifique. Il cherche pas la guerre, mais il se détourne pas s'il faut affronter un adversaire. C'est un type de Christ, comme Moïse qui, à un moment donné, était face aux magiciens d'Égypte. Ça nous trouble un petit peu, ça. Moïse transforme le bâton en serpent et le serpent en bâton, mais les magiciens, ils font pareil. Donc, il y a une espèce de lutte bien et mal. Là, notre théologie, on ne sait pas toujours bien où la placer, mais il faut retenir l'essentiel, c'est qu'il y a du surnaturel dans les deux camps. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on communique. On voit par exemple que le chef de Gandalf, Saruman, c'est un magicien de la même nature au départ que lui, ils sont du même ordre, mais il y en a un qui se laisse corrompre et qui est justement dans ce phénomène de rabaisser, de se dire on peut rien faire contre le mal, il n'y a qu'à baisser les bras, il n'y a aucune possibilité de lutter contre, etc. Alors que l'autre, avec ses faiblesses, avec les choses qui ne vont pas tout à fait, tout de même, il a cette notion de résistance en lui. Et donc, sans dire qu'il est le Christ, mais dans l'histoire, il affronte un démon, et ils vont jusque dans les profondeurs de la terre, et il vit une résurrection. Donc c'est quand même des paraboles importantes pour frapper l'imagination de ceux qui s'y intéressent. Mais après, à un moment ou un autre, il faudra qu'il y ait la révélation de Dieu que ces histoires, peut-être que vous aimez, que vous lisez, que vous voyez au cinéma, en fait, il existe une histoire vraie qui est infiniment au-delà. Mais ce qu'on vous a décrit, ce sont un peu des paraboles de choses où il y a une réalité spirituelle derrière. Et au début, il a un costume gris, mais quand il passe par sa résurrection, quand il ouvre son manteau, il y a une lumière qui jaillit, et qui fait qu'il est capable aussi de délivrer un roi qui était possédé par l'esprit d'un sorcier. En fait, je veux dire, on pénètre dans des choses spirituelles qui sont éminemment justes pour nous, même si, effectivement, on ne peut pas toujours tout faire parfaitement coller. Donc, il est à la fois le compagnon, un père, un guide spirituel, et surtout, il travaille pour le retour du roi. Travaille pas pour lui, mais pour le retour du roi. Il a cette notion qu'il y a un roi qui doit revenir sur son trône. Donc, et ça doit aussi nous guider. Quelles que soient les aventures quotidiennes ou spirituelles que vous allez vivre dans les prochains temps en tant que héros, il y a un objectif, c'est le retour du roi pour que il y ait un rétablissement des choses anciennes. On voit par exemple là, on reste dans l'histoire et dans l'illustration, dans le Gondor, il y a l'arbre du roi qui représente la vie, l'arbre de vie, ça s'invente pas, hein, et qui est complètement desséché. Mais quand le roi commence à retourner pour de nouveau s'asseoir sur leur trône, l'arbre commence à refleurir, l'arbre du roi. Donc c'est pas n'importe quoi. Et donc il y a une bataille qui se livre en chacun d'entre nous par rapport à ce retour du roi. Et là, on pousse encore la comparaison plus loin. C'est que lorsque ce roi revient, il nous est dit dans le livre, les paroles du roi apportent la guérison. Nous avons le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Jésus est la parole qui guérit. À un autre moment, il nous est dit aussi, dans les mains du roi sont celles d'un guérisseur. Il est capable, ce roi du Gondor, par ses mains, de pouvoir guérir les gens en posant ses mains. Et nous avons Jésus qui transmet une puissance qui sort de lui et par l'imposition des mains, même ses disciples sont invités à prier pour les malades. Marc 5, 30, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Vous voyez, c'est pas seulement la foi ou l'imagination ou s'accrocher à des pensées, c'est une réalité. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une force qui sort. Il l'a senti. Jésus a senti que cette force était sortie de lui. Et il se retourne au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Parce qu'il a senti qu'une personne l'a touché et qu'une force est sortie de lui. Donc il y a une réalité. La foi se manifeste d'une façon réelle, concrète. Il nous est dit dans Habacuc, c'est très intéressant, au chapitre 3, on va lire ce passage. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Ensuite, il est dit « Dieu vient de Théman, c'est un endroit en Israël. Le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel, sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. » Des rayons partent de sa main. C'est intéressant ça. J'ai entendu le récit d'un couple d'évangélistes il y a quelques années où pendant leur réunion, eh bien des fois les spectateurs, ceux qui étaient là, ils pouvaient voir des rayons qui partaient des mains des gens et qui guérissaient les gens. Donc il y a une réalité biblique là-dedans. Donc à nouveau, les mains du roi sont celles d'un guérisseur, la force de Dieu était en Jésus, elle sort pour toucher les gens, et donc on voit cet éclat de lumière qui part de Dieu, ces rayons qui partent de sa main. Il nous est dit, là réside sa force. Et on termine par encore un aspect, comme les rayons qui partent de sa main, dans Malachie chapitre 4 et verset 2, il nous est dit, la guérison est dans ses rayons, ou une autre version dit, ou sous ses ailes. L'ensemble de la phrase, c'est « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Donc exposez-vous encore à ce soleil surnaturel qu'est Dieu pour que vous soyez irradiés dans le bon sens du terme par cette puissance de Dieu. Nous avons aussi dans notre connaissance un ami qui est un missionnaire parmi les Indiens d'Amérique du Nord. Et il nous a enseigné un certain nombre de choses sur justement leurs croyances concernant les ailes et les plumes, etc., que c'est des signes de puissance. Donc la guérison sous ses ailes, ça parle aussi de la puissance qui se manifeste. Donc quelles sont toutes ces images de Jésus, notre héros? Il nous appelle à sa suite. Il veut que nous soyons les héros du quotidien. Donc nous avons besoin, c'est ma conclusion, nous avons besoin qu'il y ait une révolution constamment en nous, qui révèle aux gens, à nous-mêmes ou à ceux qui sont autour de nous, qui révèle qu'ils existent, ils ne sont pas là juste pour survivre, mais qu'ils existent, et qu'il y a en eux-mêmes des besoins plus profonds, plus permanents, qui se situent au niveau de l'être et non plus seulement de l'avoir ou du paraître. Donc, plutôt que d'aller dans le sens de l'apparence, plutôt que de montrer simplement le visage d'eux-mêmes qu'ils connaissent et de se limiter à la satisfaction des besoins immédiats, ça suppose de leur faire voir l'autre visage. C'est le visage créateur, celui qui est source d'inspiration. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc on doit aussi être une source d'inspiration et même de transfiguration. On pourrait dire notre chose ultime qu'on voudrait voir, c'est la gloire de Dieu. Comme Moïse, quand il avait vu tous ces miracles et toutes ces choses qui sont passées, au bout d'un moment, il a dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Il a dit « Mais non, j'ai tout vu, tout la mer qui s'écarte, la manne, le feu sur la montagne et tout, mais maintenant, qu'est-ce que je peux voir de plus comme miracle ?» Alors, il ne reste plus que « Fais-moi voir ta gloire ». Et dans cette présence de Dieu, il y avait une transfiguration, son visage rayonnait, Donc, ça doit être quelque part un désir au fond de nous. Plus de la présence de Dieu pour qu'on puisse être transformé de gloire en gloire. Vous le voulez, ça? Il faut que vous puissiez aspirer à être transformé. Laissez-vous transformer. Encore une illustration, de la même façon que si vous voulez bronzer, il faut vous exposer un certain temps. Si vous exposez trop, vous allez être brûlé. Mais ça se fait pas en quelques secondes. On peut dire, je crois, spirituellement, sans limiter Dieu, il peut nous transformer en un claquement de doigts. Mais certainement, comme j'ai parlé du développement personnel et de la croissance et tout, je crois qu'il faut aussi des fois une exposition plus prolongée pour se laisser transformer de gloire en gloire. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.